l'avez compris, le temps passe trop vite. Nous sommes déjà le deuxième vendredi du mois et donc histoire actualité comme tous les vendredis. Et donc là, en l'occurrence, actualité des fictions d'histoire. Table ronde fiction avec Séverine Yattard de la Fabrique de l'Histoire, Isabelle Eulandonin, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Reims, Caroline Douki, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Paris 8, et Étienne Anheim, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur des Annales. Au programme d'aujourd'hui, un roman Patria de Fernando Aramburu, paru le mois dernier chez Actes Sud. Il nous plonge dans les conflits internes aux villages et aux villes basques pendant la guerre entre l'État central et l'ETA, mais jusqu'à aujourd'hui. Puisque ces questions sont encore en suspens. Vivolé, une bande dessinée signée Mats et Mayalène Couste chez Rue de Sèvres, avec un sous-titre qui dit tout, Buenos Aires, place de Mai. Elle nous rappelle comment des secrets de famille liés à la dictature empoisonnent encore le quotidien des Argentins. Et enfin, une pièce de théâtre, Ithac, de Christiane Jataï, avec un sous-titre qui lui aussi est assez explicite, Notre Odyssée. Elle ramène cette pièce de théâtre vers nous, le récit d'Homère, et l'actualise dans le propos en particulier sur l'exil et la migration.
Le long trail sailé, au dol sur gazaile, choisi l'intuen la putarnèche kajak, il est arrasaco et chvalna rebac, il est arrasaco et chvalna rebac. Eta ungi, urre gorostegi, kiskail hinduen zidela sorginak, gure arpasoen begino zentak, gure arpasoen begino zentak.
Un titre du groupe basque La Rosa Salberiak, donc un titre de 2008 avec Beñat Atxeari, donc qui chante, donc pour nous introduire au premier, première fiction d'histoire de cette table ronde, signée Fernando Aramburu, Patria, un roman traduit de l'espagnol par Claude Bléton chez Actes Sud. Et autour de la table, eh bien, je salue Étienne Anheim, bonjour.
Bonjour.
Isabelle Hollandena, bonjour.
Bonjour.
Caroline Douki, bonjour.
Bonjour.
Et vous-même, Séverine Yattard, qui nous présentez ce roman.
Oui, bonjour. Alors, dans ce roman, nous sommes dans les années 1990, parfois dans les années 2000, ça va et ça vient, dans un village basque. Et puis là, il y a la vieille Bitori qui prend le bus de Saint-Sébastien pour venir visiter son mari au cimetière. Oui, son mari, le château. Le château est mort, petit chef d'entreprise, parti de rien, raisonnable, respecté, un habitant du village, un basque, qui parle l'euskera, ne se mêle pas de politique, donne du travail, participe aux collectes, aux fêtes du village. Il accepte de verser le tribut, l'impôt de guerre imposé par l'ETA, mais les sommes deviennent tellement extravagantes qu'à un moment donné, il s'y refuse. Et il refuse aussi de comprendre qu'il est en danger. Des graffitis apparaissent bientôt sur sa porte, réapparaissent avec insistance. Bientôt, on ne le salue plus dans la rue, dans le village. On change de trottoir, on l'évite, lui, bientôt aussi sa famille. Et puis, on l'assassine de 3 balles dans le dos. Et après sa mort, on conseille à sa famille, sa femme, son fils, sa fille de partir du village. Il est même pas enterré au cimetière du village. Et donc, parallèlement à cette histoire, à l'histoire de cette famille, elle lit l'autre histoire d'une autre famille, c'est celle des voisins, dont le fils est lui, militant ETA, c'est l'histoire de la famille de l'assassin et l'histoire de cet assassin. Alors Aramburu, vous l'aurez compris, nous entraîne donc dans cette société qui est minée par le terrorisme et la violence, où les victimes sont coupables et où chaque membre finalement de la communauté est aussi complice avec l'ETA. Il nous raconte donc le silence, personne ne raconte, et aujourd'hui, il revient sur aujourd'hui, comment ça se passe dans la société, alors que le TA, on le sait, a revendiqué un cessez-le-feu en 2010. Comment réconcilier cette société? Comment aussi se réconcilier dans cette société?
Surtout quand on est entre voisins et que l'on se connaît et qu'on s'appréciait beaucoup et on s'aimait beaucoup auparavant.
Voilà, et juste pour préciser que Patria est sortie l'année dernière en Espagne, il y a eu un succès assez impressionnant, parce que peut-être qu'il paraît à un moment donné où justement la société basque, il y a même des commissions de réconciliation qui sont dans la région mises en place, etc., pour que justement victimes et assassins puissent éventuellement se parler.
Il a reçu le prix national de littérature et le prix de la critique 2017 en Espagne, et donc il est publié et traduit donc par Claude Bléton donc chez Actes Sud. Caroline Douki, qu'est-ce que vous avez pensé de Patria de Fernando Aramburu?
C'est un roman important parce qu'il traite une question majeure de l'histoire de l'Espagne, de l'histoire de l'Europe aussi, et c'est aussi un roman majeur par ses qualités littéraires. En fait, il ne nous entraîne nullement dans l'histoire politique du nationalisme, mais il nous explique, il nous fait voir comment naît la violence dans une communauté sociale et jusqu'où elle peut mener. Et il nous le fait voir à travers l'histoire donc, de deux familles, d'un même village, d'une même communauté d'habitants qui ont absolument tout en commun. Un attachement viscéral à leur village, à leur cadre de vie, à leur paysage, la langue basque, ils parlent tous la langue basque.
Et d'ailleurs, ils changent de langue alternativement, il faut parler le castillan, ils le parlent basque, ils continuent la conversation en castillan, etc., etc.
Le catholicisme, certains le pratiquent avec plus ou moins de distance ou de bigoterie, mais ils ont tous en commun le catholicisme. Des liens d'amitié depuis très longtemps entre les deux familles, depuis la jeunesse des parents, il y a des liens d'amitié entre les enfants, et donc il nous montre comment ces deux familles en viennent à se déchirer, à se haïr, parce que dans une famille, le fils aîné est parti du côté de l'ETA, et dans l'autre famille, le père de famille, comme l'a rappelé Séverine Yattard, donc renacle à payer les sommes folles réclamées par l'ETA. Et en fait, il nous montre comment la violence gangrène peu à peu la société. Il nous montre ça au scalpel avec des procédés qui, moi, m'ont semblé vraiment virtuoses. D'abord, une galerie de portraits. Il suit tous les itinéraires des deux familles. Mmh. Et puis, il fait les portraits des piliers de l'unanimisme villageois. Parce qu'en apparence, il y a un unanimisme villageois et un unanimisme basque. Le curé, le boucher, le tenancier du bar. Mmh. Et aussi le procédé qui a été évoqué tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment très bien fait et qui entraîne le lecteur, c'est l'emboîtement des temporalités. En fait, il y a trois temporalités. Il y a les années 1960, quand les deux familles se fondent, puisque les deux mères de famille sont deux amies d'enfance qui renoncent dans les années 60 à porter le voile, à entrer en religion et qui se marient. Ensuite, il y a les années du terrorisme. Et ensuite, il y a le présent de la narration, de la réconciliation impossible. Où on nous montre en fait comment dans la famille tout le monde est déchiré. Il y a ceux qui sont du côté de la mémoire, ceux qui sont du côté de l'oubli, ceux qui sont dans le déni qui en fait gangrène tout. Et au-delà de ces qualités littéraires, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le regard en fait d'anthropologue Aramburu, c'est-à-dire qu'il nous montre tout ça en explorant tous les cercles qui sont censés faire tenir la société, protéger les individus, la famille, le village, la patrie, Euskadi. Et à chaque fois, il nous montre comment chacun de ces cercles, présentés comme des communautés évidentes, naturelles, où l'unanimisme et la solidarité sont censés être la base de fonctionnement, en réalité, ces cercles, ces communautés sont des volcans mal éteints qui sont prêts à se fissurer, à s'enflammer en un instant, en broyant tous les individus et sur trois générations.
C'est donc Patria de Fernando Aramburu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Étienne Anaïm?
Moi, j'ai trouvé, comme Caroline Douki, que c'était un roman qui était formidable et aussi effrayant. C'est-à-dire que c'est un livre qui m'a vraiment fait peur. Il a une âpreté qui est celle de son sujet, le terrorisme basque, qui est aussi celle de sa construction, puisqu'en fait, ce procédé que vient de décrire Caroline Douki, d'aller-retour, repose sur un découpage très serré. Il y a 125 chapitres qui chacun font autour de 4 pages. Ouais. Et on glisse d'un personnage à l'autre. Et à l'intérieur de chaque chapitre, on glisse d'un point de vue à l'autre, ou d'une focalisation externe à la troisième personne, à un discours intérieur, mais sans que ce soit jamais marqué. Donc il y a une sorte de fluidité, de torrent dans ce livre qui pose des questions qui sont essentielles. La question du terrorisme européen, c'est-à-dire quand on lit ce livre, moi j'ai pensé à l'Irlande du Nord, à d'autres situations, c'est-à-dire ce que c'est que le terrorisme au cœur de sociétés avec lesquelles on entretient une familiarité plus grande qu'avec d'autres, et qui du coup... déchire le tissu social d'une manière qui est, pour nous, d'une violence qui est peut-être sous-estimée en France très souvent.
Oui, on avait le mois dernier, donc dans la précédente table ronde fiction, un film qui s'appelle Dopo la guerra, qui raconte justement comment on hérite aussi de ces situations de terrorisme. Là, c'était en Italie.
Et justement, cette question de l'héritage, c'est le deuxième aspect que j'ai trouvé fascinant, c'est-à-dire ce problème du deuil et du deuil différé dans le temps. C'est-à-dire la manière dont, finalement, ici, les victimes comme les tueurs se retrouvent avec le fardeau de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont subi. Et le point auquel, finalement, la société reste perturbée par ça des décennies plus tard. Ouais. Le problème de cette femme qui revient au village... Et c'est le problème de toutes ces victimes qui dérangent. C'est-à-dire que là aussi, j'ai pensé à des très beaux textes sur le Rwanda, des textes aussi sur les Juifs dans l'après-guerre. C'est-à-dire le fait d'avoir été victime d'une forme de violence
à la Pologne
historique
aujourd'hui.
Terrible et que ce fardeau soit redoublé par le sentiment de culpabilité d'avoir été victime.
Avec cette voisine qui dit, par exemple, à propos du retour dans le village de cette femme qui revient en cachette, hanter sa propre maison, qu'elle ne peut plus habiter parce que le village n'en veut plus, et elle dit, cette voisine, je sens qu'elle vient semer la zizanie, c'est sûr, elle veut nous pousser à bout, nous sommes victimes de l'État, et maintenant nous sommes victimes des victimes, on est coincés de partout.
Ah mais c'est
donc
ça, c'est
cette vision des taras, donc des gens qui sont proches de l'ETA, qui considèrent que d'un côté il y a l'État central qui est un marteau qui va leur taper dessus, mais que les victimes qui ont été donc des victimes de ce même ETA, sont des gens qui les mettent en difficulté.
C'est ça, et justement, cette capacité à faire voir le point de vue de chaque personnage, c'est la dernière chose qui me semble vraiment fascinante dans le livre. Caroline Douki parlait de regard anthropologique, je suis effectivement tout à fait d'accord avec ça. Il y a une attention, on pourrait dire aussi micro-sociologique, à essayer de restituer, sans jamais excuser aucun des points de vue, à restituer l'ensemble des points de vue. C'est-à-dire que le fait de glisser d'un chapitre à l'autre, on voit quelle est la logique d'entrée dans le terrorisme du jeune homme d'une des deux familles. On voit quelle est la logique de l'entrepreneur, la logique de chacune des deux femmes, mères de famille qui vont prendre des parties opposées. Et cette restitution microsociologique est tout à fait fascinante.
Isabelle Le Landonna, à propos de Patria de Fernando Aramburu, paru chez Actes Sud le mois dernier.
Alors moi, comme mes camarades, j'ai beaucoup aimé ce roman aussi et je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, que je partage pleinement. Alors pour ajouter un grain de sel à ce qui a été dit par Caroline Douki et Ethan Hanheim, je dirais que ce qui est aussi très intéressant dans ce roman, c'est qu'on a le point de vue des femmes en réalité. Ce sont les deux mères de famille qui sont les héroïnes, l'une dont on tue le mari et l'autre dont le fils est incarcéré à la suite d'attentats auxquels il a collaboré.
On pourrait même ajouter les filles aussi.
Parce et les filles aussi, qui sont aussi des figures très trempées, très... de personnages très bien campés. Donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que vraiment je le partage. Mais j'ajouterais aussi que ce qui est assez frappant, c'est la mise en scène de la demande de pardon. En fait, hein, c'est ce que Bittori, la femme de l'entrepreneur assassiné, vient rechercher au village des années après que le TA a jeté l'éponge et déposé les armes, c'est le pardon. Et elle dit à un moment que le pardon exige plus de courage que de tirer au pistolet ou de déclencher une bombe. Et puis le troisième point que je voudrais évoquer, c'est justement cette question de l'oubli. On a le sentiment, enfin tous autour de cette table, on les a vécu les années ETA, même si ça remonte à la fin des années 50, mais enfin, moi je me souviens quand même régulièrement d'annonces, d'attentats, etc., etc. L'ETA, c'est quand même pas loin de 1000 morts en tout, et de l'autre côté, de nombreux incarcérés. Et on a le sentiment, quand on va au Pays Basque aujourd'hui, hein, que c'est quelque chose qui est pas oublié parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est pas forcément un sujet. Et je trouve que ce roman pose le problème du retour de flamme en réalité. Quand on, après une période de conflit, on veut oublier et l'oubli, ça ne marche pas toujours. Donc cette question-là va avec la question de la haine. Et il y a des pages très intéressantes à la fin du roman sur Josh et Marty, qui est le fils, le terroriste de l'ETA, qui ressasse sa haine. Et je me permets juste de lire cette phrase. Néanmoins, l'antidote la plus efficace de Josh et Marty contre le poison de la nostalgie, les remords et la sensation de défaite, c'était la haine.
C'est un roman qui peut être utile, on en connaît des romans qui sont utiles à l'histoire et à l'historien. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse puiser dans ce travail de romancier qui puisse servir Isabelle Lonona?
C'est un peu comme le film qu'on avait évoqué dans cette émission, 120 battements par minute. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a là, je crois, un dévoilement pour un public français de quelque chose qu'on connaît de façon un peu ponctuelle et peut-être pas de façon extrêmement profonde. Mm-hmm. Donc, c'est... Outre les qualités littéraires, c'est assez instructif finalement, même si un roman n'a pas à l'être, il se trouve que ça l'est en l'occurrence.
Et puis il y a aussi dans le roman une contribution, je dirais, de la littérature à la compréhension des mécanismes sociaux qui me semble extrêmement importante. Et la compréhension, par exemple, de ce qu'est une institution. Alors pour répondre à cette question là que Emmanuel vous posiez, je lis moi aussi un petit extrait parce que ça montre au fond comment le livre va au scalpel, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est page 398, où l'un des personnages essaie de décrire la logique de ce qui est en train de se passer. L'ETA doit agir sans interruption. Il n'a pas le choix. Il y a belle lurette qu'il est tombé dans l'automatisme de l'activisme aveugle. S'il ne fait pas de mal, il n'est pas, il n'existe pas, il n'a plus aucun rôle. Même ses chefs ne peuvent s'y soustraire. Oui, d'accord, ils prennent des décisions, mais c'est l'apparence. Ils ne peuvent en aucun cas ne pas les prendre, car une fois que la machine de la terreur est lancée, rien ne peut plus l'arrêter. Or, ça, c'est une réflexion, je dirais, de sociologie institutionnelle qui est assez fascinante, finalement. Alors qu'ici, s'applique à un cas extrême, qui est le terrorisme, qui fait largement réfléchir.
C'est vrai,
peut-être plus factuellement, précisons qu'à Rambourou, il y a des notes de bas de page qui nous rappellent aussi certains attentats. Il nous fait aussi des descriptions d'opérations menées par les militants de l'ETA, comme par exemple brûler des bus, casser des vitrines, et puis évidemment assassiner... durant cette dernière phase des hommes politiques. Et puis, bon, on ne l'a pas dit aussi, il parle des prisonniers aussi de l'ETA en prison, c'est-à-dire, il parle aussi de la torture, c'est-à-dire le fameux Jos Marty, il y a une scène qui est décrite, un sac en plastique sur la tête, tabassé par 3-4 gardes civils, et puis, même si la violence est des deux côtés, même si, bon, évidemment...
Caroline Doki.
Oui, ça c'est important dans ce livre, c'est quand il explique comment on entre dans la lutte, dans la violence, pour les jeunes, il montre l'école de la camaraderie, la fraternité de groupes du même âge où finalement personne ne peut vraiment se défiler, mais il montre surtout le rôle aussi de la violence de l'État. Il parle des GAL, des groupes de lutte antiterroriste qui ne respectaient absolument pas l'État de droit, qui ont torturé pendant que les gens étaient en prison. Donc ça c'est important, il montre tous les rouages. Et puis il y a autre chose que j'ai trouvé très intéressant dans ce roman, c'est le récit de la vie en clandestinité. Quand le jeune homme entré dans l'ETA est en prison et se remémore sa vie en clandestinité. Et là, on voit la banalité, l'ennui, l'attente. Et il montre, et le jeune homme en se remémorant, l'homme en se remémorant ce qu'il était jeune homme, comprend qu'en fait, il ne s'est pas sacrifié pour une cause exaltante, mais il est plutôt tombé dans un abîme où il s'est complètement perdu.
Oui, donc dernier mot sur Fernando Aramburu, Isabelle Onanana.
Oui, non, moi ce que je voulais dire pour compléter ce que disait Caroline, c'est que dans l'entrée en clandestinité ou dans le théâtre, dans la famille en l'occurrence, il y a deux portraits de frères qui sont très différents. Il y en a un qui est plutôt introverti, un intellectuel qui parle parfaitement le basque, etc. Et celui qui entre dans le terrorisme, c'est un peu le bad boy de la famille qui n'est pas bon à grand chose a priori. Et ça aussi, c'est quand même un point de vue, je veux dire, défendu par l'auteur. Il n'est pas dit qu'ils étaient tous... comme Josh et Marty.
Est-ce qu'il y a des questions de classe sociale, je me demandais, parce que les deux familles, elles sont identiques. Certes, elles ne le sont pas, parce qu'il y en a une qui a réussi, l'autre qui a moins réussi socialement.
Il y a un déterminisme social dans la manière dont il dépeint les choses.
Ouais. C'est Patria de Fernando Aramburu, traduit de l'espagnol par Claude Bléton, chez Actes Sud.
mi corazón.
Deuxième fiction d'histoire de ce vendredi dans la Fabrique de l'Histoire. Nous entendons Tango Nero Trio, Plaza de Mayo, qui est d'ailleurs le sous-titre de ces Vivolets, une bande dessinée signée Mats et Mayalen Gust chez Rue de Sèvres. Une bande dessinée qui nous raconte l'histoire de deux jeunes amis qui dont l'un est pris par cette idée que peut-être ses parents ne seraient pas ses propres parents. Alors on est en Argentine et on sait effectivement qu'environ 500 enfants ont été enlevés de leur famille pendant les années de dictature en Argentine pour être remis à des familles qui étaient plus politiquement correctes dans cette dictature argentine, que ces enfants étaient généralement des enfants de gens qui ont été assassiné, et donc il se pose la question de son ascendance, de savoir si ses parents sont ses véritables parents, et là naît un drame, puisque son meilleur ami donc va l'accompagner pour aller faire un test ADN, et c'est la suite de l'histoire que je ne vous raconterai pas, mais néanmoins, il y a bien là effectivement le sentiment du drame dans une bande dessinée magnifiquement dessinée par Mayalen Gust, et dont on peut se demander si elle c'est un point de vue français ou un point de vue argentin. En l'occurrence, c'est un point de vue français sur une affaire argentine pour nous ramener cette question des enfants volés de la dictature argentine vers nous. Qui veut commencer à propos de Mayalen Gust? Oui, Isabelle Hollande.
Alors oui, cette bande dessinée traite d'un sujet douloureux et toujours d'actualité, hein, puisque la fondatrice du mouvement des grands-mères de mer retrouvait son petit-fils il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2-3 ans je crois. Alors, le sujet est tout à fait intéressant, douloureux, et il montre, je crois, un peu, d'ailleurs, comme Patria, de ce point de vue-là, il y a une forme de parenté, comment la violence exercée sur...
L'héritage de la violence.
L'héritage de la violence, voilà, l'héritage de la violence continue d'irriguer après, enfin 30 ou 40 ans après la fin de la c'est 83 je crois, la fin de la dictature, la société argentine. Alors moi j'ai trouvé que le dessin est très beau, mais j'ai trouvé que la mise en scène de l'histoire
était un peu simple
et presque destinée à des enfants. Enfin, il y a pas tellement de complexité là-dedans. C'est très, je veux pas disqualifier du tout le travail du scénariste, qui par ailleurs est quelqu'un de tout à fait honorable et qui a fait des choses très intéressantes sur la Bolivie. C'était Tango, je crois, ou le dernier roi de la Terre de Feu sur le Venezuela. Bon, enfin, on parlait un peu de Venezuela, mais j'ai trouvé ça extrêmement léger, mais pas au bon sens du terme, hein, manquant un peu de poids. En gros, ça part de l'idée de faire un test ADN. Deux jeunes gens deux étudiants colloques très très différents de l'un de l'autre, y compris socialement, là encore, on retrouve cette différence sociale. Et celui qui s'interroge sur sa filiation... on va pas dévoiler
rien, truc, on va rien voilà, dévoiler mais, du tout.
Celui qui s'interroge sur sa filiation. Décide de passer ce test ADN et l'histoire part de là. Alors, ce qui est peut-être intéressant là-dedans, c'est que, enfin, moi je l'ai lu comme ça, c'est que évidemment ça tricote la notion de filiation, hein, qui est le parent le plus légitime, celui qui donne la vie ou celui qui élève. Ça, c'est évoqué dans le texte, ça fait écho assez puissamment avec toutes les questions autour de la parentalité, mais par un prisme évidemment qui est tout à fait particulier. Et aussi la question du choix des familles, qui est quelque chose de traiter là-dedans de manière assez intéressante, je crois. Mais disons qu'au total, moi, j'ai été un peu déçue par le texte. Mm-hmm. Les dessins sont jolis, mais le texte, je l'ai trouvé un peu en deçà de ce que mériterait cette histoire.
Étienne Anaïm.
Effectivement, il y a une dimension didactique et puis une forme de fluidité dans le récit qui le rend apparemment simple. Alors, je suis d'accord avec ça. En même temps, je pense que la bande dessinée est sauvée par, finalement, son épilogue. Alors, Emmanuel me regarde en disant, il ne faut pas décrire la fin.
On ne va pas spoiler.
D'accord, mais ce n'est pas si facile de raconter une bande dessinée. Surtout quand on trouve que le meilleur, c'est les 4 dernières pages. Ça rend les choses compliquées. Mais enfin, il se passe quelque chose dans les dernières pages.
Vous êtes capable de bien d'autres exploits.
Qui fait que l'un des personnages, en l'occurrence la jeune femme Victoria, fait un choix radical. Or, ce choix-là pousse, je dirais, le récit dans un sens un peu différent vers quoi il se présente, en lui donnant une dimension plus forte qui pose la question de la filiation. C'est-à-dire que, je reviens sur ce que vient de dire Isabelle Lelan à l'instant, il y a, à travers ce livre, un récit sur l'Argentine qui est tout à fait passionnant, sur ses fantômes, et à ce titre moi ça m'a fait beaucoup penser aussi à un livre que j'ai trouvé magnifique, un livre d'historien mais qui a une dimension littéraire très forte, qui est le livre d'Esteban Bourg, Trauermarsch sur l'orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature, paru au Seuil en 2016, qui pose au fond cette question des fantômes argentins. Mais il y a une autre question à travers la question de la filiation, qui est, je crois, très actuelle, et qui est le problème du rapport entre le droit et la biologie. C'est-à-dire que, au fond, un certain nombre de personnages de cette bande dessinée sont torturés par l'ignorance de leurs origines biologiques, et que, au fond, leur statut juridique ne remplace pas cette ignorance des origines construite à travers un objet qui est l'ADN. On voit l'effet sur les personnages de quelque chose qui est un problème là beaucoup plus général, je pense, des sociétés contemporaines à travers l'ADN, qui est la rebiologisation de la filiation. C'est-à-dire qu'au fond, on a le sentiment aujourd'hui...
tous ces Afro-Américains qui se font faire des tests d'ADN pour savoir de quel pays ou de quelle région d'Afrique venaient leurs ancêtres.
Ça, pendant très longtemps, finalement, la filiation, c'était le droit dans un héritage romain. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la biologie a repris le dessus. Alors, on peut être fasciné par ça, trouver que ça a des effets cognitifs tout à fait intéressants. Ça pose aussi des questions, c'est-à-dire de savoir si finalement cette recherche des origines et cette sorte de vide qui est créé en soi, dès lors qu'on a l'impression qu'il échappe une sorte de d'origine biologique mythique, ça produit pas aussi des dégâts.
Même lorsque un des personnages dit que de toute façon ça n'a pas d'importance que de savoir qui est son père et qui est sa mère biologique, c'est au bout du compte, on s'aperçoit qu'effectivement ça n'est pas le cas, en tout cas dans ces vies volées de Mats et Mayalen Gust, donc chez Rue de Sèvres.
Ici, dans ce cas, pour des raisons politiques, puisqu'il lui répond oui, mais c'est pas pareil d'avoir été que adopté, tes parents, adopté et de savoir que tes parents ont été assassinés pour être adoptés ensuite. Mais en fait, c'est vrai que par rapport à la question, le texte effectivement est assez simple, l'intrigue aussi, le scénario aussi, mais je trouve que les dessins, en revanche, finalement, nous disent presque plus que le texte. Je trouve qu'ils sont, et notamment sur cette question aussi de la perte d'identité, parce que c'est ça la recherche de filiation, et lorsque l'un des deux amis se rend compte qu'effectivement, ses parents ne sont pas ses parents. Il y a ces planches, page 48-49, que je trouve extrêmement, où il y a un effacement.
Formidable.
Un effacement
du visage.
Du visage. Et une perte dans une sorte de tourbillon.
Son visage s'efface au fur et à mesure de la page. Et on a l'impression, effectivement, de se souvenir de certains textes de Yankelevitch, effectivement, sur ce qu'est le visage, en l'occurrence. Caroline Douki, à propos de cette bande dessinée qui s'intitule Vie volée chez Rue de Sèvres.
J'ai eu un peu le même mouvement qu'Étienne Anaïm, c'est-à-dire qu'au début, comme tout le monde autour de cette table, j'étais réticente. Dès les premières pages, on devine quel va être le résultat du test ADN. C'est assez téléphoné comme histoire. Et puis, en fait, un peu plus loin, dans la deuxième partie de la bande dessinée, le scénario se densifie et gagne un peu en densité et en subtilité, parce que en fait on se rend compte qu'il y a la trajectoire non pas seulement de deux personnes, mais en fait de quatre jeunes gens, de jeunes hommes, de jeunes femmes,
de parents aussi. Finalement.
Voilà, de parents, de grands-parents, ça devient plus intéressant. Et notamment, moi j'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé que c'était plus complexe autour de la rebiologisation de la filiation. Certes, ça c'est un élément très important. important de nos sociétés. Mais en même temps, on voit aussi comment c'est, dans la deuxième partie de la bande dessinée, comment c'est, et je crois que je vais rien dévoiler, sinon vous m'arrêtez tout de suite, mais comment les jeunes
c'est
gens
le rôle
qui
du gendarme, là.
Comment les jeunes gens qui sont impliqués dans cette quête sont aidés dans cette quête par des solidarités affinitaires. Ils se recréent des familles non pas biologiques mais affinitaires. Ouais, parce que finalement, les grands-mères de la place de Mai, aucune n'est grand-mère de ces quatre jeunes gens, mais en même temps, certains de ces quatre jeunes gens les choisissent comme grand-mères. Ce sont des grands-mères qui sont choisies et avec qui ils entretiennent des relations intergénérationnelles qui ressemblent à des relations entre petits-enfants et grands-mères. Et puis aussi, ces jeunes gens, finalement, pour certains, recréent des familles avec des gens qu'ils choisissent à l'extérieur de la famille. Et puis, parmi ces liens affinitaires qui permettent de traverser les épreuves de la vie individuelle ou de l'histoire, il y a l'amitié des deux jeunes gens. Et cette bande dessinée fait l'éloge de l'amitié. Moi, j'ai trouvé ça très important, très touchant aussi. Cette remise en avant des liens affinitaires choisis ou des liens affinitaires au fil des rencontres.
Alors que justement, voilà, c'est sur une histoire de filiation et de biologisation des rapports.
La biologie n'est pas tout dans nos
vies. Même si la biologie n'est pas tout, je suis d'accord avec ce que vous dites tous les deux, mais je trouve que vous injectez, je pense, votre esprit et votre acribie et vos analyses puissantes.
Acribie, magnifique, aller chercher acribie.
dans ce texte qui, je crois, pour le commun des mortels, peut-être ne dira pas tout ce que vous y voyez.
Eh bien, la meilleure façon de le savoir, c'est de proposer à nos auditeurs de le lire. Ça s'appelle « Vie volée » de Mats et Mayalen Gust. Et c'est chez Rue de Sèvres, sous titre « Buenos Aires, place de Mai ».
France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Instrumental d'Issam Krimi sur le « Dis quand reviendras-tu » de Barbara que l'on entend dans une autre version dans cette Ithac Notre Odyssée 1 donc proposé par l'Odéon Théâtre de l'Europe dirigé par Stéphane Braunschweig. C'est inspiré d'Homère, nous dit la brochure qui accompagne cette pièce de théâtre que nous sommes tous allés voir, et c'est un spectacle de Christiane Jataï qui est artiste associée à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Alors, il faut peut-être décrire le dispositif qui est très impressionnant. C'est un dispositif qu'on appelle bifrontal, séparé par un rideau qui empêche les spectateurs d'un côté de voir l'autre côté. Il y a donc deux scènes qui se font dos l'une à l'autre. Et il y a une scène qui nous raconte le voyage vers Ithac et le retour vers Ithac d'Ulysse, et l'autre scène qui nous raconte les gens qui à Ithac attendent, en particulier Pénélope et les autres, évidemment les prétendants ne l'attendent pas, le retour de ce même Ulysse, mais tout cela mêlé dans des voix qui nous viennent du Brésil en portugais, puisque trois des actrices parlent à la fois portugais et français, et très lié à la situation contemporaine, parce qu'on a rajouté à ce texte des témoignages de gens qui meurent en Méditerranée, non pas des témoignages de gens qui meurent, mais des gens qui traversent la Méditerranée au risque de mourir ces temps-ci, donc pour pouvoir gagner l'Europe. Qu'avez-vous pensé de cette pièce de théâtre, Caroline Douki? Vous êtes spécialiste des questions de migration, ça a dû vous intéresser a priori.
Oui, ça m'a intéressée. Et moi, j'ai trouvé cette pièce de théâtre captivante, de bout en bout. J'ai prouvé à la fois le plaisir du spectacle, du texte, de la mise en scène et la réflexion, enfin la réflexivité sur notre monde et sur nous-mêmes. C'est notre odyssée, ce n'est pas un texte qui nous parle des autres, c'est un texte qui nous parle de nous-mêmes qui réussit très bien à faire jouer ensemble le passé, la trajectoire immémoriale d'Ulysse en Méditerranée et le présent, c'est-à-dire cette Méditerranée contemporaine qui n'est plus, à l'inverse de l'époque antique, un monde commun et partagé, mais qui est le monde de l'errance, du naufrage, des fractures multiples, qui est un cimetière désormais, et qui est aussi un monde où il n'y a plus d'hospitalité, alors que l'hospitalité est au cœur de l'Odyssée. C'est une pièce qui réussit très bien à faire jouer ensemble les deux types de récits, c'est-à-dire la fiction imaginaire et puis le récit des témoignages des épreuves réelles traversées par les migrants qui ont survécu à des périples mortifères. Et puis, c'est aussi une pièce qui fait jouer le théâtre et la vidéo. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme scénographie.
Mmh. Séverine Yatar, à propos de cette Ithaque, notre Odyssée.
Donc, il faut savoir que les spectateurs ont droit aux deux, hein. Oui. Aux deux séances.
On n'a pas qu'une moitié de spectacle.
On tourne au cours du spectacle. Et peu à peu, d'ailleurs, les deux scènes se rejoignent, en fait. Hein. C'est aussi l'idée dans cette traversée, puisque voilà, c'est ce dont parlait Caroline. La question, elle-même le dit, hein, Christiane Jataï, c'est la question de l'exil, du retour chez soi et de cette mer à traverser qui devient tellement présente qu'elle submerge le plateau et qu'on s'y noie finalement à la fin de la pièce. Et puis alors sur le texte, effectivement, c'est des bribes, hein, c'est des bribes de texte, de textes de divers horizons. Il n'y a pas le texte de l'Odyssée évidemment qui est repris. C'est une inspiration. Hein. C'est loin libre. D'être une adaptation. Elle est très très libre effectivement.
Alors, Étienne Anheim, qu'est-ce que vous avez pensé de cette pièce de théâtre donc qui est donnée à l'Odéon Théâtre de l'Europe sous le titre Ithaque, notre Odyssée pendant encore, je crois, une bonne semaine.
Bien, Emmanuel, je voudrais pas vous mentir en direct à la radio, donc je suis obligé de dire que je ne partage pas l'enthousiasme de Caroline Douki pour cette pièce de théâtre. Alors, je voudrais expliquer pourquoi, parce que j'ai trouvé d'abord que le spectacle était d'une grande beauté visuelle, mais qui tire davantage vers presque l'installation d'art contemporain à un certain moment, et toute la fin du spectacle est magnifique pour ça. Les acteurs sont très bons. Les 10 premières minutes, quand on commence par Ithaque, puisque les spectateurs sont divisés en deux au départ, et chacun voit la moitié de la scène. Donc j'étais du côté de ceux qui commençaient à Ithaque. Et les 10 premières minutes qui mettent en scène la guerre civile et les prétendants autour de cette femme, en modernisant profondément la situation narrative, sont excellentes. Et puis alors, petit à petit, on s'est enfoncé, pour moi, dans quelque chose qui a suscité un assez grand ennui. Je suis désolé de le dire. C'est-à-dire que j'ai eu peu à peu le sentiment d'être coincé dans le cauchemar de quelqu'un qui durait pendant 2 heures avec des personnages qui se disputaient, se déchiraient. Alors, des bribes de texte, oui. Des bribes de texte, parfois à la frontière de l'intelligibilité. Et
en portugais, parfois. Hein, oui. On ne comprend pas.
Alors, bon, surtitré. Le portugais est surtitré, mais au fond, j'ai eu le sentiment que au bout de 2 heures, c'était une pièce qui finissait par ne pas avoir de propos à force d'avoir trop de propos. C'est-à-dire qu'il est à la fois question de la guerre, du Brésil, de l'Odyssée, des rapports entre hommes et femmes, des migrants, et finalement, je trouve que effectivement,
quoi choisir au milieu de tout ça ?
On est envahi, comme la Seine qui est envahie par l'eau qui monte progressivement avec une forte odeur de piscine, parce que non seulement c'est un cauchemar, mais chloré, et finalement on ressort de là sans savoir très bien qu'en penser.
Oui, moi je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé ce spectacle pour sa qualité visuelle. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur la qualité du texte, mais néanmoins, il faut quand même reconnaître un art particulier de Christiane Jataï à nous mettre dans une angoisse absolue, par exemple dans cette première scène qui était la première scène pour vous comme pour moi, puisque nous étions du même côté, c'est-à-dire du côté d'Ithaque et des prétendants, sur ce qu'est la violence interne à une société qui veut effectivement prendre les femmes. Et c'est un moment absolument exceptionnel de transcription de cette violence sur les femmes par ses prétendants qui n'attendent que l'occasion de lui sauter dessus, cette Pénélope qui attend pourtant le retour d'Ulysse.
Ah oui, mais ça dure 10 minutes.
Oui, c'est ça, voilà. Isabelle Le Lendemain. Mais il faut le dire tout de même.
Ah non, mais je l'ai dit. Oui.
Alors, moi j'aurais un point de vue un peu à mi-chemin entre l'enthousiasme de Caroline et la détestation d'Étienne. C'est peut-être un peu fort, détestation.
Fort, la réserve.
La réserve, voilà. Alors, moi, mon problème, c'est effectivement le texte dans tout ça. C'est-à-dire que je reconnais la grande beauté de la mise en scène. Je dois dire que, franchement, c'est très inventif. Et de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Ça relève presque de l'installation, puisque à la fois, il y a toute une mise en scène, il y a de la vidéo.
Oui, on pourrait, à certains moments, on pourrait, par exemple.
Cette vers la fin où les acteurs se filment et c'est reprojeté en haut, enfin, je trouve ça absolument saisissant.
Oui, et on
très,
sait
très
que
beau.
Malheureusement, l'apparition de la vidéo sur scène dans des théâtres aujourd'hui ne donne pas les meilleures choses parfois, et qu'on a pu voir des pièces qui étaient absolument catastrophiques usant de cela. Et là, effectivement, c'est assez réussi.
Il y avait eu Les Damnés aussi. Il y avait
Vous n'aviez pas aimé.
Mais alors là, ce qui m'a gênée, alors nous, je crois, on a commencé par Veritac, hein, puisqu'il y a Ithac et Veritac. Mmh. Donc, on a commencé par Veritac, et je pense qu'on a eu un peu de chance de ce point de vue-là, parce que c'est
donc assez... ça veut dire que tous les auditeurs qui vont vouloir y aller vont vouloir choisir la queue du...
Ils ne savent pas dans quel queue ils seront. J'ai trouvé Ithac beaucoup plus ennuyeux, même si je peux partager ce que dit Étienne. Alors, ce qui m'a gênée, c'est effectivement un message très brouillé. Très brouillé pour deux raisons. La première, c'est que les dialogues sont extrêmement décousus, impressionnistes, et surtout, on est envahi par toutes sortes de sujets. Et ça, de ce point de vue-là, je partage tout à fait le point de vue d'Étienne, c'est-à-dire que, à la fois, les migrants, et alors on voit bien comment ça se rattache à l'Iliade et à l'Odyssée, mais il y a en même temps un fort écho du Brésil contemporain, de Dilma Rousseff, enfin de choses comme ça. Et du coup, le spectateur, enfin que j'ai été, se trouve un peu pris entre plusieurs feux, en se disant, bon, finalement, où est la hiérarchie des messages dans tout ça? Il n'en demeure pas moins que c'est assez beau, et que les réminiscences du texte du livre, il y a un moment, je suis personne, voilà, il y a des choses comme ça qui ressurgissent, hein. Mais du point de vue du texte, encore une fois, c'est une démonstration, voilà, plus qu'autre chose.
Caroline Douquier, à propos de ce Ithac, notre Odyssée à l'Odéon, jusqu'au 21 avril.
Moi, je trouve pas que ça soit un problème, qu'il ne s'agisse pas d'une pièce de théâtre avec unité de lieu, de temps, mais que ce soit un spectacle pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Je plaide pour la pluridisciplinarité. Il faut ajouter l'importance aussi de la BO, de la musique. Ce qui est dit ici montre une chose, c'est que selon qu'on entre par Ithac ou par Veritac, c'est-à-dire par Calypso, on ne voit pas le même spectacle. Moi, je suis rentrée donc par Veritac, par Calypso, avec Isabelle Le Lendemain. Et en fait, quand on rentre par là, on rentre par le côté hospitalité. C'est l'hospitalité. Et moi, j'ai vu toute la pièce selon une certaine unité, et non pas une dislocation. C'est-à-dire que pour moi, l'unité, c'est qu'on entre du côté de l'hospitalité et que toute la pièce raconte la perte de l'hospitalité et notre monde où il n'y a plus d'hospitalité. Je l'ai vu comme ça.
Voilà, c'est donc cette pièce de théâtre s'intitule « Ithac, notre Odyssée 1 ». Alors peut-être
notre Odyssée 2, c'est pour 2019.
Ah voilà, donc ça va donc continuer, effectivement. On y retournera pour savoir comment ça se termine. Et en particulier, il y a déjà la mort des prétendants, puisque elle est déjà présente, sans vouloir spoiler ou révéler la fin de cette pièce de théâtre.
On sait qu'à la fin, Ulysse rentre chez lui, on peut spoiler ça.
Voilà, donc c'est inspiré d'Homère, c'est signé Christiane Jataï et c'est au théâtre de l'Europe à Paris jusqu'au 21 avril. Donc d'ici encore quelques jours, merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde fiction de ce mois. Je rappelle que nous avons parlé de Fernando Aramburu, Patria, roman traduit de l'espagnol par Claude Bléton chez Actes Sud, de Vivolé, de Mats et Mayalen Gust chez Rue de Sèvres, Buenos Aires, Place de Mai, et donc de cet Itac, Notre Odyssée. Mais vous savez, nous terminons toujours cette émission du vendredi par notre séquence C'était à la une, et le C'était à la une de ce mois-ci, donc en l'occurrence avec Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Donc ça nous emporte du côté de la fin du 19e siècle. Nous sommes le 12 janvier 1870 et c'est l'assassinat d'Auteuil, celui de Victor Noir.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le rappel, mercredi 12 janvier 1870. L'assassinat d'Auteuil. Un meurtre odieux vient d'être commis à Auteuil. Son Altesse impériale, le prince Pierre Bonaparte, cousin germain de Sa Majesté l'Empereur, a assassiné notre ami et ancien collaborateur, Victor Noir. Victor Noir s'était rendu chez son Altesse accompagné de Monsieur de Fonvielle. Le prince ayant insulté Monsieur Pascal Grousset, Monsieur Grousset avait prié ces deux messieurs de lui servir de témoin. Voici comment Monsieur de Fonvielle nous raconte le crime. En arrivant à la maison du prince, Victor Noir remit sa carte au valet de pied. Au bout de 5 minutes, le prince entra. Il était pâle et paraissait en colère. Victor Noir parla pour la première fois, hélas, et pour la dernière aussi. « Monsieur, dit-il, nous venons de la part de Monsieur Grousset. Nous sommes solidaires de nos amis. » À ce moment, le prince bondit sur lui, il lui applique la main gauche sur l'épaule, le force à se tourner, et tirant rapidement un revolver de sa poche, il le lui décharge en pleine poitrine. Victor Noir, en essayant de se défendre contre son assassin, l'égratigne à peine à la joue. Le prince fait feu une seconde fois. Victor Noir, blessé à mort, aperçoit alors une porte ouverte, il se précipite dans l'escalier. Monsieur de Fonvielle veut courir à son secours, le prince se tourne vers lui et lui tire un troisième coup de pistolet. Le docteur Pinel, qui passait justement au moment de la mort de notre pauvre ami, se rendit aussitôt chez Monsieur Pierre Bonaparte. Il lui apprit qu'une des personnes sur lesquelles il avait tiré venait de rendre le dernier soupir. « Lequel des deux ?» demanda le prince. « Est-ce le plus petit ?»« Non, répondit Monsieur Pinel, c'est l'autre. » Le prince fit un mouvement. « Quand l'empereur va savoir ça, s'écria-t-il, il va me retirer ma pension. » Nous arrivons de la maison que Victor Noir habitait à Neuilly. Beaucoup de nos confrères y sont allés comme nous. La rue du marché, ordinairement déserte à cette heure, était pleine de voitures qui toutes s'arrêtaient devant la même porte. Les sergents de ville qu'on apercevait de loin en loin, cachés aux angles des rues, semblaient cependant plus nombreux encore que les voitures. La porte de la maison était ouverte. Deux dames étaient assises au coin de la cheminée. La plus jeune, à demi renversée sur son fauteuil, pleurait. C'était la fiancée de Victor Noir. Il la devait épouser dans 2 ou 3 jours. Monsieur Louis Noir, le frère de la victime, se tenait dans une pièce à côté. Je n'ai rien vu jamais de plus épouvantable que sa douleur. Il nous conduisit à l'appartement de Victor Noir. C'était un petit appartement que ce pauvre et cher garçon venait de meubler. Appartement simple et assez bizarrement orné. Un trophée d'armes pendu au mur, une grande table, une photographie représentant la mort de Baudin et une autre photographie représentant le foyer de l'Odéon. Il était couché sur son lit, à demi déshabillé, ses traits étaient calmes. Sa peau seulement, rose d'ordinaire, avait la blancheur d'un marbre. Ses yeux n'étaient qu'à demi fermés, sa chemise était entr'ouverte et toute pleine de sang. On voyait sur sa poitrine, juste à la région du cœur, un gros trou noir. On ne lui avait point retiré son pantalon, tout blanc de poussière. En sortant de chez le prince, sur le trottoir, Victor Noir était tombé à genoux. Quelques amis étaient là, groupés autour de Monsieur Gilles, qui faisait le portrait du mort. Tout le monde pleurait. Pourquoi cette bête fauve l'a-t-elle tué? Pourquoi? Qu'avait-il fait? Il venait, au nom d'un ami, demander réparation pour une injure. et on l'assassine. En quel temps vivons-nous ? On se croirait au XIVe ou au XVe siècle. On se demande si l'on a affaire à un Bonaparte ou à un Borgia. Ce misérable avait médité son crime, il s'était armé. Il n'a point cédé à un mouvement de colère, il s'était dit à l'avance « je tuerai » et il a tué. Victor Noir écrivait dans les journaux républicains, il était républicain. Monsieur Pierre Bonaparte a pensé qu'on pouvait tirer sur lui comme sur du gibier. On a tué de la même façon beaucoup de républicains le 2 décembre. Monsieur Pierre Bonaparte a conservé pieusement les traditions de la famille. Édouard Lecroix.
Voilà pour ce texte que vous pourrez lire en intégralité sur le site Retro News, notre partenaire de la Bibliothèque nationale de France. Réalisation Séverine Cassard, la lecture était assurée par Christophe Brault. Comme d'habitude, cette émission avait été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Youtou Diego Ac Lopez était à la technique avec nous aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons parfum et odeur dans la fabrique de l'histoire, tandis que dès demain, l'histoire continuera sur France Culture avec Concordance des temps et Jean-Noël Jeannonnet reçoit Julien Loiseau sur les Mamelouks en Égypte. Et puis, vous pouvez également vous intéresser à un autre type d'histoire, l'histoire musicale. Ce soir, donc à 14h, vous pouvez écouter Métronomique, donc l'émission qui traite à la fois d'histoire et d'histoire musicale, le Portugal et l'Afrique. C'est aujourd'hui dans Métronomique à 14h sur France Culture.